Gloire à Dieu, vous allez bien? Je voudrais cet après-midi partager un texte avec vous. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, malgré qu'on ait pu la lire à plusieurs reprises, et certains textes, je dirais, d'une manière assez régulière, parfois on découvre tout à nouveau un texte et on se dit « Seigneur, comment ça se fait que je suis passé à côté de cela ?» Et ça a été, c'est le cas pour le psaume 107 que je vous invite à lire avec moi, si vous le voulez bien. Psaume 107 qui dit ceci. Psaume 107. Célébrez l'Éternel. Je vous laisse trouver. On va lire tout le psaume. Hein. Célébrez l'Éternel car il est bon. Car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ce qu'il a racheté de la main de l'adversaire, et rassemblé de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Ce qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. D'autres habitaient les déserts et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la peine. Ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur infection. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils se rendent et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires et qui faisaient des affaires sous les grandes eaux, ceux-là virent l'œuvre de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans les abîmes. Leur âme se fendait dans le malheur. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les fait sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête, et les flots suturent. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent dans la réunion des anciens. Ils changent les fleuves en désert, et les sources d'eau en terre desséchés, les pays fertiles en pays salés à cause de la méchanceté de ses habitants. De l'autre côté, il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau et il fait habiter les affamés, il fonde une ville habitable. Il ensemence des champs, plante des vignes qui produisent un fruit abondant. Il les bénit, ils deviennent très nombreux et ne diminuent pas leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'étreinte du malheur et de la souffrance. Il verse le mépris sur les nobles et les fait errer dans un chaos sans chemin. Il relève le pauvre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute injustice ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Amen. Quand on lit ce texte, la première chose qui saute aux yeux, c'est un peu ce que nous venons de faire ensemble, témoigner, partager ce que Dieu a fait pour nous. Et il dit que ceux qui ont déjà goûté à ce rachat, qui célèbre l'Éternel, partager aux autres ce que Dieu a fait pour nous, c'est pas dire je suis le meilleur. Moi je vais vous dire, j'ai pas été sauvé par Dieu parce que je suis le meilleur. Il m'a choisi parce que j'étais le pire. Mais oui, parce que pourquoi sauver quelqu'un qui est bon? Il est déjà bon, il n'a pas besoin de salut, non? Jésus lui-même dira qu'il est venu chercher ceux qui étaient malades. C'est les malades qui ont besoin du médecin. Et qu'on le veuille ou pas, nous tous, nous avons été affectés d'une maladie qui mène à la mort. Ça s'appelle le péché. Aucun autre humain peut dire qu'il n'est pas touché par le péché. Si vous regardez, si vous faites bien attention, on n'apprend pas à mentir en général. Ça vient tout seul. On se dit que de cette manière-là, on peut éviter les problèmes. Et on essaye avec fourberie d'éviter. Mais le problème, comme me disait toujours ma mère, les mensonges ont les pattes très courtes. Hein ? On se fait toujours choper. On se fait toujours rattraper. Tu mens une fois, deux fois, trois fois, mais la vérité a les jambes très longues et il court plus vite que toi. On n'apprend pas un enfant à mentir. Par contre, on est obligé de lui dire attention, je n'aime pas les mensonges. Il y a comme quelque chose qui attire l'être humain dans des souffrances. Et ce texte que je viens de vous partager, moi j'ai osé mettre un titre qui dit « D'où venez-vous ?» Dans le verset 4, il nous parle d'une terre déserte. Le désert, c'est symbole de l'isolement, de la détresse, du rejet, de l'abandon. Combien sont malheureusement venus de ce lieu-là? Combien il y en a qui ont habité ce désert, cette tristesse, ces souffrances? Il y a plusieurs années en arrière, on était en Alsace et un jour, une dame, une sœur de l'église est venue me voir pour me dire, il y a une personne qui est en situation de détresse, est-ce que tu serais d'accord de venir la voir? Et donc on a été voir cette personne, c'était une dame qui était en une grande dépression. Et quand on est arrivé dans ce logement, cette dame était restée dans cet état-là depuis presque un mois. Elle avait un tout petit qui s'appelle Mathieu. Et ce gamin, il s'était nourri de ce qu'il avait trouvé dans les placards. Il était habillé de son pyjama que sa maman lui avait mis avant de tomber dans cette forte dépression. Et cette femme, elle était recroquevillée dans un coin. Elle attendait juste que quelque chose arrive pour lui enlever la vie une fois pour toutes. Et quand on a été la voir, j'étais saisi dans mon cœur, j'étais triste de voir quelqu'un dans ces conditions-là. Et dans mon cœur, j'ai commencé à dire, Seigneur, il faut absolument que tu l'aides. Moi, je ne sais pas quoi faire, mais toi, tu as certainement une solution. Et on a commencé à parler avec elle et on a prié avec elle. Et après, je voyais le petit Mathieu. Et le petit Mathieu avait à ce moment-là à peu près 5 ans, 5-6 ans. Et le petit Mathieu avait vécu avec sa maman ce temps de désert et criait « Je veux mourir ». Il répétait en effet ce qu'il avait entendu dire à sa mère. « Je veux mourir ». Et donc j'appelle le petit Mathieu, j'ai dit « Tu voudrais qu'on parle ensemble ?»« Non, je veux mourir !» Donc pas moyen de l'approcher. 2 jours plus tard, je suis retourné lui faire visite, voir comment ça allait. Et finalement, la maman, elle commençait à aller mieux. Parce que vous savez, c'est incroyable, mais quand on prie, quand on crie à Dieu, et vous l'avez vu dans le texte, ils ont crié à Dieu. Quand on crie à Dieu, Dieu intervient d'une manière particulière, sans forcer les portes, sans forcer les cœurs. Et à ce moment-là, cette femme, elle a commencé à aller mieux. Quand je suis arrivé, elle était habillée, toute propre, commençait à nouveau à retrouver un visage qui commence à montrer un peu la vie, hein. Et finalement, le petit Mathieu, lui aussi, il était habillé, tout propre. Et pendant qu'on discutait avec la maman, il vient me voir, il me dit, je peux te demander une chose? Je dis, bien sûr, tu peux. Il me dit, est-ce que je peux t'appeler tonton? Ah, je lui dis, mais moi, je serai l'homme le plus heureux au monde si tu m'appelles tonton. Je lui dis, mais est-ce que tu voudrais que tonton y prie pour toi? Il dit oui. Et on a prié. Quelques semaines plus tard, cette femme, elle est venue à l'église. Et Dieu a fait une œuvre et l'a relevée. Et quand le petit Mathieu arrivait à l'église, la première chose qu'il faisait, il courait pour venir me saluer sur l'estrade. Tonton! Vous savez, parfois on pense que Dieu prend soin que de ceux qui sont arrivés, excusez-moi, à bac plus je sais pas quoi. Ceux qui sont très bons, ceux qui méritent. Et moi, ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a envoyé un message à ceux qui étaient dans le désert. Au verset 10 et 11, il est question de ceux qui habitaient les villes obscures, la souffrance, la haine, l'inimitié avec les hommes, avec Dieu, l'occultisme. Oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu, l'occultisme. Quand on parle de ville obscure, on parle d'une vie quand même dans quelque chose de ténébreux, pas bon. Alors des expériences, je pourrais vous en raconter des dizaines et des dizaines, mais quand Dieu touche la vie d'une personne, on a rencontré une femme qui, quand à quelqu'un lui a parlé du Seigneur, cette femme, elle avait un cabinet de voyance. Elle s'est convertie, elle a donné son cœur au Seigneur. Elle était malade, elle ne pouvait pas marcher, elle avait des béquilles, les médecins lui disaient qu'il ne marcherait plus jamais. Et donc elle a donné son cœur au Seigneur, elle a fermé son cabinet de voyance, elle a changé de vie, et là c'était financièrement, c'était une chute, hein. Son mari, il l'a traité de toutes les manières parce que pour lui c'était quand même une source de gain. Et cette femme, quand elle a donné son cœur au Seigneur, elle s'est engagée avec Dieu, elle s'est engagée aussi dans les eaux du baptême. Et vous savez quoi? Elle est venue avec ses béquilles, elle est rentrée dans les eaux du baptême, elle a été baptisée, elle est sortie des eaux du baptême, elle a jeté ses béquilles, le Seigneur l'avait guérie. Elle était dans les villes obscures. Verset 17, il nous dit et il nous parle d'errance, les pays d'errance, là où il y a des épines, la violence, la dépravation, la débauche, l'alcool, toutes ces choses qui, quand on touche, qui s'y frottent, s'y piquent, n'est-ce pas? On ne peut pas mettre le doigt dans l'engrenage et penser ne pas en subir des conséquences. Quand on touche à ces choses-là, forcément, après on a du mal à se détacher. C'est quelque chose quand même qui laisse un venin quand ça pique. La drogue, l'alcool. Alors, au départ, on peut penser que les autres ne voient pas, que les autres ne ressentent pas. Comment sortir de ce genre de situation? C'est personnel et combien, malheureusement, puisqu'ils ne trouvent pas de solution, tombe dans ce genre de souffrance. La question n'est pas de jeter la pierre, c'est de dire qu'ils ont besoin d'aide. Et encore une fois, si vous faites bien attention, le texte est dit, mais ils ont crié à l'Éternel. Crié à Dieu, dire Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Et Dieu est capable de le faire, vous savez. Il est capable d'aider quelqu'un qui est dans l'alcool, quelqu'un qui est tombé malheureusement sous l'emprise de la drogue. Il y a bien des choses qui nous rendent captifs, qui nous rendent esclaves, qui nous empêchent en réalité de sortir la tête de l'eau. L'année dernière, période de mars-avril, on avait fait une petite affichette pour l'évangélisation, quelque chose de très simple. Et un soir, j'étais dans une des deux annexes de l'église. Et d'un coup, je vois arriver une femme avec un cadre. Et dans ce cadre, elle avait mis l'affichette. Donc, comme elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle est montée dans le bus et elle a dit au chauffeur du bus, c'est là que je veux aller. Et pour elle, elle en a fait un tableau. Donc, elle est venue avec ça, elle est venue à l'église et dit, c'est ici. ça, c'est ici ? Je lui ai dit, oui, madame. Oui, oui, d'accord. Elle s'est mise assise. Et à la fin du culte, cette femme, elle est venue devant, on a prié pour elle. Une femme qui, malheureusement, a connu l'hôpital psychiatrique. Elle me disait, elle me racontait encore dimanche dernier, qu'à 3 ans, elle a été enfermée en hôpital psychiatrique avec sa maman. Et que pour la laver, on la mettait toute seule contre un mur et avec le jet d'eau, on la lavait. Et donc, pour elle, l'eau ranime des souffrances du passé. Elle me le disait dimanche. Elle me disait, vous savez, pasteur, moi, des fois, je n'ai pas envie de me laver parce que ça me rappelle des souffrances. Alors, je lui dis, vous savez, aujourd'hui, si vous le faites par amour des autres. Parce que les autres voudraient vous aimer, voudraient vous approcher, mais eux aussi, peut-être, ils ont d'autres souffrances. Et dit, pour vous, si vous le faites par amour des autres. Et dit, mais dit comme ça, je suis prête à le faire. Et vous savez quoi ? Cette femme, elle me dit, vous savez, pasteur, je dois vous dire quelque chose. Il dit, j'allais voler dans les cimetières. Elle allait sur les pierres tombales, elle récupérait les plaques que les gens avaient mis sur les plaques. Elle en avait la maison pleine. Incroyable. Incroyable, la souffrance jusqu'à où peut amener ? Parce qu'on lui avait empêché d'aller à l'enterrement de quelqu'un de sa famille, pour elle, c'était devenu... Elle allait dans les églises voler, dans les supermarchés voler, la police la connaît. Et donc, on lui a parlé du Seigneur et elle m'a dit, vous savez, je veux arrêter. Elle est retournée au cimetière, elle a ramené toutes les pierres qu'elle avait piquées. Elle m'a dit, je ne vais plus voler, hein, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Ça, c'est fini. Et elle m'a dit, maintenant, je voudrais me baptiser. Dimanche, on a eu un baptême. Elle regardait le baptistère et dit, ah, j'aimerais bien. Je dis, mais venez, on va parler avec vous. On va vous expliquer la parole de Dieu. Et c'est aussi pour vous. C'est pour vous que Jésus l'a fait. Ils ont crié à l'Éternel. Parfois, on pense que parler à Dieu, il faut trouver des mots, il faut trouver des choses, il faut avoir... Moi, je voudrais vous dire la prière simple. Le simple fait de dire à Dieu, viens à mon secours, s'il te plaît. Viens m'aider. Dieu ne cherche pas des longues phrases, il ne cherche pas des belles phrases, il ne cherche pas des paroles qui sortent, je ne sais pas, du dernier dictionnaire Larousse, version 2018-19. Non. Il cherche ce qui sort du cœur. Le texte parle à partir du verset 23 de ceux qui voyageaient et qui ont vécu les océans déchaînés. Je discutais avec quelqu'un il y a quelques jours qui me racontait l'histoire de son papa qui était marin. Et là, je parlais de quelqu'un que je connais bien, M. Riggenbach, qui était marin. Avec un, ah oui, mais c'est avec lui qu'il s'est converti, c'est lui qui lui a parlé du Seigneur. Et ils étaient marins, à la vie des marins, hein. On imagine bien. Hein. Mais même là, et pourtant ils ont pu voir les merveilles de l'océan, le texte il le dit, ils ont vu des choses incroyables, non ? Cet été j'ai eu la grâce, la possibilité d'aller visiter l'île de la Réunion pour faire une mission de 15 jours là-bas, et j'ai pu voir une baleine. Wow, super, une tortue, des magnifiques poissons, c'est magnifique ce que Dieu a créé. Mais si on se trouvait dans l'océan déchaîné, là on oublie toutes les belles choses, on se dit Seigneur pourvu que je revienne à la terre ferme, parce que là au milieu de l'océan je suis perdu, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Seigneur je ne sais pas comment je vais pouvoir finalement retrouver, garder la vie. Ça vous est arrivé déjà d'être en plein océan ? Non ? Moi, une fois, un ami, il a voulu me ramener au bateau à voile. Il m'a dit, viens, on va faire un tour. Et on était loin du rivage. On n'était pas dans l'océan, on était loin du rivage. Et un coup, le vent a soufflé, le bateau s'est retourné. Moi, pendant que le bateau se retournait, j'ai fait le tour, j'étais sur la quille du bateau. Lui, il était dans l'eau, moi, j'étais déjà au sec au-dessus. Il me dit, tu fais quoi ? J'ai dit, ah non. J'ai dit, là, il y a gros poisson, moi, gros bonhomme, lui manger. Il dit, mais là, il faut m'aider maintenant. J'ai dit, tu te débrouilles, c'est toi le capitaine. J'avais pas envie parce que, à quelque part, je me disais, ça suffit qu'un poisson passe et se dit, ça y est, j'ai l'apéro aujourd'hui. Combien de fois nous pouvons nous retrouver, nous, dans une espèce de mer déchaînée avec des hauts et des bas. Ça vous est arrivé déjà de vivre des hauts et des bas dans la vie? On a l'impression qu'il y a un truc qui nous monte d'un coup et ouf. Et on n'a pas le temps d'arriver en bas qu'à nouveau ça remonte et on se dit « Seigneur, pourquoi tout ça ?» Et encore une fois, une seule solution, un seul moyen, il criera à l'Éternel. Il criera à l'Éternel. Moi, je ne sais pas quel est l'endroit dont vous venez. Je ne sais pas quelle est la situation que vous vivez. Ce que je sais, c'est que Dieu permet certaines choses pour nous amener en réalité à retrouver notre relation avec lui. Imaginez que si vous aviez perdu un enfant, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour retrouver votre fils? Monsieur, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour retrouver votre fils? Est-ce que vous resteriez assis sur le canapé à la maison, tranquille, en disant « mais j'ai mis des affiches hein? » Ou est-ce que vous mettriez tout en œuvre? Je pense, hein, moi je me dis personnellement, je ne me donnerai pas de répit tant que je ne l'ai pas ramené à la maison. C'est arrivé de perdre un enfant. Hein, on part, on va faire les courses et du coup, il s'est enfilé dans un des rayons et on le cherche. Moi, les miens, pour ne pas les perdre, quand on allait faire les courses, je mettais dans le caddie. On avait un caddie pour les gamins, un caddie pour les courses. C'était la seule manière parce que les deux, ils partaient toujours dans des directions différentes. Et on avait peur de les perdre. Alors imaginez le Seigneur, Dieu, quand il voit qu'un de ses enfants, une de ses créatures se perd, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre pour le retrouver? Il va tout chercher. Alors un jour, je voyais mon fils, à chaque fois on arrivait au supermarché, il se barrait. Et une fois, j'en ai eu marre. J'ai dit, maintenant, je vais lui apprendre quelque chose. Et du coup, je le suivais du coin de l'œil, mais je me cachais, je regardais. Et il jouait, il était tranquille. Mais après un moment, quand il s'est aperçu que papa n'était plus là, que papa ne le suivait pas à la trace, et bien là, il a commencé à flipper. Et donc, et c'est pas longtemps ça, il y a à peu près 6 à 7 mois, le petit qui est là avec moi. Et donc, il fait le supermarché dans un sens. Et moi, je le regardais au loin. Je l'ai laissé aller. Après, il a fait le supermarché dans l'autre sens. Et comme ça, 3-4 fois. Et je voyais qu'il paniquait. Et au coup, je l'ai arrêté, je l'ai appelé. Ah, il est arrivé à... J'ai dit, ça va mieux maintenant? T'as eu peur? Non! J'ai dit, c'est pour ça que je t'ai vu transpirer, presque pleurer? Oui, j'ai eu peur. J'ai dit, est-ce que t'as compris? Tu dois pas t'éloigner. Il dit, oui. Maintenant, je peux vous dire, il me lâche jamais. Hein. Il est toujours à côté de moi. Parfois, Dieu permet des choses... juste pour que nous prenions conscience que quand on est seul, on est perdu. Ce que mon épouse, elle vous disait tout à l'heure, d'avoir fait le choix de dire à Dieu, je ne veux pas de toi. Alors c'est vrai, ça peut choquer de dire, c'est merveilleux que Dieu le fasse. Parce que Dieu, il accepte la décision. Il nous a donné le libre arbitre. Vous avez le choix de vous séparer de Dieu, mais comme vous avez aussi le choix de vous approcher de Dieu. C'est un choix qui vous revient. Et Dieu respecte votre choix. Son cœur de père espère le choix d'un fils, d'une fille qui dit « Papa, j'ai besoin de toi. » Non? Et à partir de là, forcément, notre démarche, notre vie change parce qu'on n'a plus envie de revivre les mêmes souffrances. Alors, Dieu a autorité sur toute chose. De la même manière que Dieu permet que ces situations viennent et détruisent une vie, de la même manière, Dieu peut changer les événements. Il y a quelques mois en arrière, on a reçu à l'église un couple et lui, il est d'origine réunionnaise, elle, je crois aussi, mais c'est mon collègue qui les suit. Et quand ils sont arrivés, elle avait déjà des enfants. Et donc, les enfants étaient séparés d'elle. Elle est arrivée à l'église, elle était en situation difficile. On a prié avec elle. Et vous savez quoi? Dieu a permis que dans les semaines qui suivaient, elle a récupéré ses enfants. C'est beau, hein? Mais après, ils n'étaient pas encore mariés. Alors, on les a encouragés en disant, mais
Mettez votre vie en règle. Oui, mais il y a tellement de problèmes, on n'a pas les moyens, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. On m'a dit, on va vous aider. Ce n'est pas une question de moyens. Vous voulez vous marier? Oui, mais on va vous aider. Et donc, ben, il faut qu'on appelle la famille. Mais la famille, c'est la guerre avec la famille. J'ai dit, on va prier. Parce que vous savez, prier, ça marche. Et je vous lance un défi. Priez, vous verrez, ça marche. Essayez, testez. Vous verrez vous-même. Priez. Amen. J'ai perdu personne, tout le monde est bien réveillé. Hein? Et donc, on prie avec ces jeunes. Et finalement, ils appellent les parents à l'île de la Réunion. Et le papa, que depuis X temps ne voulait plus voir sa fille, a fait le déplacement. Il y a 15 jours, dans la même journée, alors ils ont fait le samedi le mariage, et le dimanche, on a fait la bénédiction de mariage, le baptême, des parents et la présentation des enfants. C'était magnifique, le Pâques. C'est le Pâques. Et lui qui ne trouvait pas de boulot depuis X temps, même pas 15 jours après, il a signé un CDI. Quand on met notre vie en règle avec Dieu, Dieu débloque les choses. Parfois, certaines situations, elles sont juste là parce que Dieu nous dit « Hé, je te cherche ». Vous savez, comme son ce papa pasteur qui a laissé son fils faire le cours. Parfois, on a besoin de passer par là. On a besoin de prendre conscience que ben, on n'y arrive pas tout seul. Et le coup, moi, je me verrais mal me ramener avec mon fils, attacher une chaîne. Hein, vous m'excusez, parce que j'ai vu ça aussi. Hein. Des parents qui se promènent avec leur fils et qui l'ont attaché une ficelle pour ne pas le perdre. C'est horrible, vous m'excusez, mais ça me rappelle d'autres choses, moi. Ça me gêne un peu. D'autant plus que lui, ce n'est pas une petite chaîne qu'il faut. Il faut un truc costaud quand même. Il a de la force. Hein. Et Dieu ne veut pas faire de nous, excusez-moi, quelqu'un qui est attaché à une chaîne. Il est venu pour nous libérer de nos chaînes. Et il aime un enfant qui a du plaisir avec son père. Je pense que votre pasteur, il le disait ce matin. Il entend sa fille, et je pense qu'il aime sa fille, non? Tu aimes ta fille, hein? Hein? C'est comme ça, hein, papa. Et maman, la même chose, hein, je veux pas de... Mais croyez-moi, Dieu aime sentir que ceux à qui il a donné la vie, parce que la vie que nous avons, c'est un cadeau de Dieu. Et même si nous, on n'est pas capable d'aimer Dieu, Dieu, lui, il est capable de le faire. Et la preuve en est, c'est qu'il a donné son fils alors que nous, on ne l'aimait pas. Et quand le texte dit, mais ils ont crié à Dieu. On a vu 4 décors différents. On a vu le désert, on a vu les villes obscures, on a vu les pays d'errance, on a vu les océans, 4 tableaux. Mais en effet, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et... Est-ce qu'on est prêt à crier à l'Éternel et vivre autre chose? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, viens à mon secours et je veux voir autre chose? Et l'histoire que certains ont déjà vécue, mais peut devenir aussi la vôtre. Un pasteur me racontait, il était sur Paris et un jour, il y avait une réunion d'évangélisation comme maintenant. Et d'un coup, il y a un monsieur, un sans-abri qui est venu à l'église. Il était sous l'emprise de l'alcool. Il sentait pas bon. C'était terrible. Et comme il était dans cet état-là, il s'est approché au moment de la prière. Ils ont prié pour lui. Il est parti. Et on m'a dit, c'était horrible à le voir venir, horrible le voir partir. Il se tenait pas debout. On l'a accompagné, mais... Il dit, 15 jours plus tard, je vois un monsieur arriver. Attaché caisse, costume, costard, cravate, chapeau, truc, waouh. Il dit, il est sorti d'un catalogue, lui. Et il vient le voir et dit, bonjour monsieur le pasteur, est-ce que vous me reconnaissez? Il dit, non, je ne crois pas vous avoir vu. Il dit, vous savez qu'un jour en arrière, vous avez prié pour un homme qui était complètement... Ouais. Et oui, je m'en rappelle. Eh bien, c'était moi. Ah bon? Il dit, oui, c'était moi. Il dit, suite à un problème familial, j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné mes entreprises, je suis parti, j'ai vécu à la rue depuis des années. Dans la pauvreté, dans la misère. Et il dit, et quand je suis arrivé ici, j'étais à deux doigts de me suicider. Mais ce soir-là, j'ai entendu l'évangile et j'ai crié à Dieu. Et il dit, j'ai arrêté l'alcool. Si je touche à l'alcool, je me sens mal. Dieu l'avait délivré, il lui avait mis le dégoût de l'alcool. Magnifique, hein? Et il dit, je suis retourné à la maison et je pensais que ma famille, elle aurait pu voulu de moi, mais en effet, il me cherchait. Il dit, j'ai repris ma place dans ma famille, j'ai repris ma place à la tête de mes entreprises et je tenais à venir vous dire merci. Et ils ont pu prier encore une fois ensemble. C'est un peu l'histoire du fils prodigue. Hein? Peut-être qu'il y a des mamans ici, des papas qui espèrent revoir leur fils revenir, leur fille revenir. Mais il y a de l'espérance, crier à l'Éternel. Vous savez, quand le papa il regarde au loin, ben, il est avec cette espérance de voir son fils revenir. Il est là, il attend que son fils revienne. Et vous savez pourquoi, dans cette histoire du fils prodigue, le papa se lève et court vers son fils? Parce qu'en réalité, comme le fils avait demandé son héritage avant que le papa soit mort, il avait fait quelque chose qui était condamnable par la mort. Et en effet, les serviteurs auraient pu exécuter le fils à cause de ce manque de respect envers le papa. Et le papa, pour lui sauver la vie, va courir pour aller le chercher. Et il lui redonne tout de suite de la dignité. Il lui met une bague à son doigt. Il lui dit, voilà, vous allez le laver. Vous voyez, c'est mon fils. Il est revenu. Il était mort. Voici, il revient à la vie. Si aujourd'hui, vous demandez à Dieu de vous secourir. Il ne sera pas là pour vous juger, mais il sera là pour vous sauver la vie. Si aujourd'hui vous faites le pas de dire, Seigneur, je reviens quand je suis, dans l'état où je suis, le Seigneur ne sera pas là pour juger l'état dans lequel vous êtes, mais sera là pour vous redonner de la dignité, pour vous remettre à votre place en tant que fils, vous redonner à nouveau un véritable héritage, parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime. Alors oui, ça prend tout son sens, les premiers trois versets qui disent « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ce qu'il a racheté de la main de l'adversaire est rassemblé de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, de la mer. » On vient de lieux différents. Il y en a qui viennent du Nord, qui viennent du sud, il y a encore plus de sud que de sud ici. Hein. Moi, je viens de Calabre, c'est bien le sud. Hein. Peu importe, ce qui est important, c'est où on va. Je voudrais vous dire ce soir, peu importe d'où vous venez, ce qui reste important, c'est où allez-vous. On peut aller finalement retrouver cette grâce de Dieu, puisque Dieu, il est capable, on l'a lu, il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il fait habiter les affamés, il fonde une ville habitable, ils ensemencent des champs, plantent des vignes qui produisent un fruit abondant, il les bénit, il leur fait du bien, il les renouvelle, il leur redonne quelque chose. Peut-être que vous avez tout perdu, mais avec Dieu, vous pouvez tout récupérer, voire mieux. Plus, parce que Dieu donne au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je termine avec le verset 43 qui dit que celui qui est sage garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. On pourrait s'entêter et rester dans une forme d'orgueil. Et dire, moi, j'ai raison. On peut mourir avec nos raisons, mais si on est un tout petit peu vrai avec nous-mêmes, on sait quand on se trompe. Non ? On sait quand on a pris mauvaise direction. Maintenant, c'est bien, on a des GPS qui vous disent, faites demi-tour dès que possible. Et comme nous, on est convaincus qu'on a raison, on a continué. Non, je veux aller là, c'est là. Mais on est obligé après de faire le chemin à l'envers. Mais au fond de notre cœur, quand on a pris mauvaise direction, on le sent. Non ? Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, il le sent. Alors ça, c'est vrai, on faisait des choses pas bonnes quand on était gamin. Maintenant, on est adulte, on fait tout bien. Je crois qu'encore aujourd'hui, malheureusement, il y a des choses qui nous amènent à nous tromper. Mais, il dit le texte, ils crièrent à l'Éternel. Peut-être que aujourd'hui, quelqu'un voudrait pouvoir crier à l'Éternel. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, parce que je voudrais vous dire quelque chose. Ces quatre tableaux, il y en a certainement un qui correspond à chacun. Aucun d'entre nous dit « Ah, mais moi j'étais déjà bon, c'est pour ça que Dieu m'a choisi, j'étais le meilleur. » Parce que là déjà il y a un problème d'orgueil, donc il y a un travail à faire. Chacun d'entre nous en était dans un de ces tableaux et Dieu nous a fait grâce. C'est pour cela aussi que c'est important de témoigner autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ? Témoigner de ce que Dieu a fait pour vous, c'est déjà bien. C'est la parole, c'est le message, c'est l'évangile vivant. Alors je voudrais vous inviter à faire ce que la Bible elle dit, ils ont crié à l'Éternel. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants ? Et pendant ce moment où on garde nos yeux fermés, on baisse nos têtes, peut-être que quelqu'un souhaiterait aujourd'hui dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Peut-être que quelqu'un voudrait dire à Dieu, Seigneur, voilà, je suis dans une situation de détresse, d'épreuve, de difficulté. Si tu l'as fait pour les autres, tu peux le faire aussi pour moi. Et moi, je voudrais vous dire, oui, Dieu peut le faire pour vous. Et je voudrais vous inviter tout simplement à faire un acte de foi, à lever votre main et je prierai pour vous, pour que le Seigneur vous aide. Oui, j'ai vu votre main. 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 Oui, j'ai vu, oui. Criez à Dieu. Criez à Dieu. Si vous voulez bien, je voudrais vous inviter à répéter cette prière avec moi. Père céleste, Dieu de grâce, je viens à toi. Non pas à cause de mes mérites. Je reconnais d'être un pécheur. Je reconnais mes erreurs et je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Je reconnais que tu l'as envoyé pour moi et que par les souffrances et sa mort et le sang qu'il a versé, je peux être pardonné. Mon Dieu, je te demande pardon. Et je veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je veux lui donner mon cœur. Je veux t'appartenir. Merci de venir à mon secours. Merci mon Dieu. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, tu as entendu les cœurs, tu as entendu, Seigneur, les sentiments de chacun. Seigneur, cette prière, Seigneur, ce n'est pas une simple récitation, c'est le désir d'être secouru par toi. Et à chaque fois que quelqu'un a crié à toi, ta parole nous dit que tu l'as secouru. Et nous croyons que cet après-midi, Seigneur, tu es là pour secourir. Tu es là pour encourager, tu es là pour aider. Seigneur, tu es prêt à aider celui qui passe par des temps de désert. Tu es prêt, Seigneur, à aider celui qui vit dans la ville obscure. Seigneur, tu es prêt, Seigneur, à aider celui qui est bloqué parmi l'errance, qui est étouffé par les épines, Seigneur. Et tu es prêt à aider aussi celui qui se retrouve en haute mer, qui a perdu tout repère, qui n'a plus de port d'attache, Seigneur. Tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Et nous croyons, Seigneur, dans la guérison qui vient de toi, de ta parole, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun, pour ceux qui ont levé la main, mais aussi peut-être pour ceux qui n'ont pas osé le faire. Mais toi, tu connais leur cœur. Alors, Seigneur, merci de ta grâce. Merci de ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles, Seigneur, à user de cette sagesse et garder ces choses dans le cœur. Seigneur, que ton Saint-Esprit, maintenant, vienne prendre place dans les cœurs, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne, Seigneur, en réalité, Seigneur, sceller ces cœurs qui ont fait, Seigneur, la paix avec toi. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse les diriger vers toi pour qu'ils, Seigneur, ils puissent, oui, expérimenter ta miséricorde, mais aussi être reconstruits, rétablis, relevés par la puissance de ton nom. Nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen.
Alléluia.